C'est 23.
Au réseau Cogeco, Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Jérémy Ravine.
C'est le moment d'accueillir le coach des Coyotes de l'Arizona qui est avec nous. Salut coach, Monsieur Tourigny, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ben, ça va super bien. André, avant d'aller à la pause, ce que je disais aux gens, c'est les Coyotes de l'Arizona devront être prêts parce qu'ils vont affronter un club qui s'appelle le Wild du Minnesota, qui a sorti son gardien de but en prolongation, quitte à perdre son point qu'ils ont déjà acquis pour gagner un match face à Nashville. Écoute, je pense que le Wild est crinqué. Êtes-vous prêt à ça?
Oui, mais on n'a pas le choix. Prêt, pas prêt, ça part. Mais écoute, je pense qu'ils ont montré qu'ils étaient sérieux et qu'ils veulent compétitionner et qu'ils croient encore. J'aime le move qu'ils ont fait.
Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais, toi, essayer, faire? Est-ce que ça prend de l'audace quand même faire ça?
Bien, ça dépend d'eux autres. Si tu regardes le classement, ça va être eux autres ou Nashville. Là. Fait que c'est, fallait absolument qu'il y ait un point de plus que Nashville dans cet affrontement-là. Fait que écoute, ça prend de l'audace, mais en même temps, c'est le common sense. Là. Il faut que, s'ils veulent avoir une chance de rejoindre Nashville, ça y est, prenait ce point-là.
Mais c'est le genre de choses. C'est drôle parce que tantôt, je vais te parler de John Tortorella. Tu sais, Tortorella qui se fait éjecter du match puis qui reste là. On dirait que des fois, les coachs, j'avais cette perception-là quand c'est le temps de donner un électrochoc à ton équipe. Est-ce que tu penses que ça peut ressembler à ça? Vous savez ça? Vous avez le feeling de ça des fois?
Ben, il faut que tes joueurs sachent. Un, t'as le. They got their back. Faut que tu sois là pour eux autres quand ils en ont besoin. Un. Puis deux, ben, tu lui demandes de compétitionner et de jamais abandonner. Fait que dans la situation du Wild, là, c'est pas de se contenter, on a un point à soir. Les autres, il faut qu'ils battent Nashville, il faut qu'ils passent en avant de Nashville s'ils veulent faire les séries. Fait que faut que le coach soit prêt à compétitionner et à prendre les décisions en conséquence.
André, comment ça se passe pour vous autres dans vos 10 derniers matchs? 3-6-1. Ça a été difficile cette saison. Il y a du meilleur hockey qui joue présentement?
Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est plate parce que dans nos 11 dernières games, c'est notre, si tu le prends au niveau des stats avancés, puis tout ça, là, c'est notre meilleur stretch de l'année. Puis on a rien que 3 victoires. On a perdu 2 games contre Chicago. On a pas bien joué ces 2 games-là, mais en dehors de ça, on a joué du bon hockey. Mais on trouve pas le moyen de gagner ce qu'on faisait avant les fêtes. Avant les fêtes, même quand on n'a pas des bons matchs, on était capable de trouver un moyen de gagner. Présentement, on est dans un slam, il y a trop de quoi. C'est où on n'a pas les arrêts, où on n'est pas capable de mettre dedans, où on prend des punitions. Il y a trop quelque chose qui blesse, mais on joue du bien meilleur hockey.
C'est drôle quand même, parce que je regarde le classement puis je regarde les stats. Moi, tu sais, je pense pas que les stats disent tout, là, mais quand je regarde votre formation, vous êtes moins 26 en différentiel. Les clubs en arrière de vous autres, là, c'est loin. Moins 62, moins 111, moins 95. Écoute, c'est pas vilain comme hockey quand même. Vous avez du punch à l'attaque. Vous êtes capable de serrer le jeu défensivement?
Oui, on est. Pour avoir du succès, nous autres, il faut bien jouer défensivement. Quand on joue bien défensivement, on a un très bon pourcentage de victoire. On est la deuxième équipe la plus jeune dans la ligue. C'est difficile d'aller chercher de la constance. C'est ce qu'on se bat là, avec. Là. Quand on joue du bon hockey, on est capable de venir être à n'importe qui, mais quand on arrive à un choix donné, que notre focus n'est pas à sa place, mais on ne joue pas du bon hockey.
OK, bien là, vous êtes jeune, puis en plus, Dumba est parti, Stetcher est parti, Zucker est parti. Comment ça se gère à l'interne quand des vétérans comme ça importants quittent l'organisation à date limite des transactions?
Bien, nous autres, tu sais, je te dirais, il y a 2 ans, on avait les Keller, puis les Hayes, et Ayton, Kraus, Schmall, ça, c'est des jeunes hommes. Maintenant, c'est des vétérans dans notre équipe. C'est des gars qui ont une présence. C'est eux autres les leaders de l'équipe. Fait que, écoute, on n'a pas perdu ces gars-là. On n'a pas perdu notre leadership. Je pense que Bill il a fait une bonne job dans les 2 dernières années. Le 2 ans, il avait entouré ces gars-là de gars comme Andrew Ladd, Antoine Roussel, Anton Strowman, Louis Erickson, etc., etc. Il y avait beaucoup de J.B. Eagle. C'était tous des bons vétérans alentour d'eux autres. L'année passée, il a été chercher des Stetcher, puis Bjugstad, Patrick Nemeth, des gars comme ça. Puis, ça a continué à élever nos jeunes. Puis là, cette année, ben, je pense que ces gars-là sont prêts là, à prendre la relève et à être les alphas dans notre équipe.
On est en conversation avec André Tourigny, coach des Coyotes de l'Arizona. Tu parles de Bjugstad. D'autres fois, je regardais les stats. Si tu veux, j'avais un couple d'une 5 minutes à perdre. Je regardais les stats de vos joueurs. Là. Keller, là, écoute, c'est 55 points avec un moins 23. Schmal, c'est 44 points, moins 27. Bjugstad, 34 points, plus 6. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi qu'il est plus 6?
Puis en plus, lui, il joue contre les meilleurs tous les soirs. Fait que c'est, t'sais, j'en ai souvent parlé de Bjugstad, comment qu'il était sous-estimé, comment que les gens ne voyaient pas à quel point que Bjugstad était important. C'était gros l'année passée quand il y a eu la transaction. Les gens pensaient que oh, c'est de la profondeur pour les Oilers. Moi, je disais, c'est plus que de la profondeur, Bjugi. C'est un gars qui est notre premier piqué. Il joue en power play. Il joue contre les meilleurs tous les soirs. C'est tout ça fait que c'est un élément extrêmement important dans notre équipe. Puis, tu viens de le dire, tu regardes ses stats, ça, puis il est très efficace.
Est-ce que vous regardez ça, vous autres, les plus et moins? Ben non, c'est juste nous autres qui regardons ça de l'extérieur.
Ben, ça fait partie de l'ensemble de plein de statistiques. On regarde les offensive general play, les possession driving play, les expected goals for against, le pourcentage. Ouais. Il y a plein de statistiques comme ça qu'on regarde. Les plus et moins, ça en fait partie. Il y a des fois que tu regardes certains joueurs et tu dis, ouais, ça reflète pas son jeu, puis il y en a des fois que tu regardes, tu dis, ouais, c'est pas mal ça, ça ressemble à ça.
Des fois, t'as pas le choix de te rendre à l'évidence, tu fais ça, ouais, c'est ça qui est ça. André, c'est ça. Hey, je veux savoir, écoute, c'est un dossier qu'on a tellement souvent parlé, de dossier des Coyotes de l'Arizona, puis là, il y a de la nouveauté, là, puis permets-moi, puis dis-moi si t'es pas confortable d'en parler, ça me dérange pas. Mais là, il y a le comité, écoute, c'est le Arizona State Land Department Board and Appeal, qui, 14 mars, va rendre une décision à savoir si le groupe qui vous représente, les Coyotes de l'Arizona, peuvent entrer en négociation pour acheter un terrain pour bâtir un amphithéâtre infrastructure. Est-ce que tu as hâte que ce soit fini, ça? Est-ce que tu as hâte que ça te dise oui, on y va, ben non, on part?
Ben oui, c'est sûr. Parce que les gens pensent à l'équipe de hockey. Il y a bien plus que ça. On a des joueurs du parc de Bjugstad, ils viennent d'avoir son troisième enfant cette semaine. On a des gars qui ont des enfants à l'école. On a des gars qui se bâtissent des maisons, qui veulent se bâtir une maison, qui veulent acheter une maison. Ouais, mais là, ils ont besoin à un moment donné. Parce que le joueur de hockey, c'est une chose. Mais là, la femme, là, toi, tu m'en parles. Pense pas que la femme à Joe Blow dans notre équipe, elle l'a pas appelé. Elle dit, hey, as-tu des nouvelles? T'as entendu parler? C'est quoi qui se passe? C'est toutes des distractions que. C'est correct, là. Je suis pas en train de voir mes femmes. Ce serait ma femme, ce serait la même chose. Elle voudrait savoir c'est quoi qui se passe. On déménage-tu? On reste ici? C'est quoi qui se passe? On signe-tu ici à long terme? On signe pas? C'est où est-ce qu'on va se ramasser? Fait que tout ça, oui, c'est sûr que ça fait partie des distractions qu'il faut que tu manages. T'es un athlète ou un coach professionnel, il faut que tu vives avec ça. Sauf que, y en a d'autres choses qu'on serait capable, des choses de même qu'on serait capable de se passer, c'est sûr.
Ouais, clairement. Puis là, on dit que c'est le 14 mars, puis, on regarde ouais, ça.
Non, ça va être touché après, là. Tu sais, là, ça, c'est pour savoir s'ils peuvent négocier. C'est pas pour l'acheter, là. Mais après ça, ça va être. C'est pas, notre gars d'équipement ici, là, il est phénoménal. Stan Wilson, là, il était à Winnipeg, lui, il déménageait avec l'équipe. Fait que, il y en a vu, là. T'sais, lui, c'est le premier qui nous a dit, là, parce que le deadline, je pense que c'était une affaire comme le 15 janvier. Après ça, ils ont poussé ça en février. Puis là, c'était au mois d'avril. Là, il a dit, cassez-vous pas la tête, là, ça va être repoussé 5 fois, 6 fois. Attendez pas après ça, là. C'est le même entre les fois.
Ouais.
Fait que ça va être ça encore.
Ouais, ça va être ça, mais je trouve. Puis là, moi, je pense aux joueurs puis aux familles, là. À un moment donné, l'association des joueurs a commencé à lever le flag pour dire, là, on pourrait-tu être sérieux là-dedans? Ça commence vraiment à prendre des proportions qui finissent plus, là. À un moment donné, c'est le fun, mais il faut que ça arrête en quelque part. Que ça soit positif ou négatif, il faut qu'il y ait une décision qui soit rendue.
C'est sûr. Sauf que c'est ce qu'il faut. Tu sais, le marché de l'Arizona, les gens ont une perception biaisée. Ça va peut-être être le plus gros marché de la Ligue nationale quand il va avoir un aréna.
Mm-hmm.
C'est la cinquième plus grosse ville aux États-Unis. C'est une des villes les plus riches aux États-Unis. La croissance est incroyable, etc., etc. Ils ont mis l'aréna. C'est un peu comme à Ottawa. Quand ils ont mis l'aréna au Canada, là, ça n'a pas attiré foule tant que ça. Là.
Ouais.
C'est la même affaire ici. Ils ont mis l'aréna à Glendale. C'est, ça va dire de quoi, là? À la Glendale, c'est là, du trafic, là. si tu restes à Scottsdale, tu y vas pas. Tu regardes la game à télé. Fait que c'est pas même que tu crées une clientèle dans un marché du Sud. Si tu regardes les clubs comme la Caroline, le 3-4 ans, il n'y a pas un choix dans l'aréna. La star, là, c'est sold out à tous les soirs. Phoenix, faut que ça soit fait de la bonne façon. Puis que l'aréna soit à bonne place. Ça va lever. Même chose que ça a fait dans les villes comme Nashville, Caroline, Tampa Bay, etc.
On vous le souhaite. C'est pas qu'on n'a pas essayé jusqu'à présent, mais clairement, il va falloir qu'il y ait un dénouement qui soit plus positif. Est-ce que tu me permets de te parler de John Tortorella? Puis je vais avoir ton point de vue sur qu'est-ce que tu vois. Deux matchs de suspension, 50 000 $ d'amende. Je te demande pas de critiquer la Ligue nationale, mais comment ça se passe avec les arbitres? Est-ce que c'est déjà arrivé, toi, que tu sois sur le bord de te faire sacrer dehors d'un match?
Honnêtement, là, c'est pas dans, tu sais, dans Q, j'ai pogné 1-2 minutes. En 12 ans, 12, 13 ans. Dans OHL, j'en ai pogné 1. Dans Ligue nationale, j'en ai pogné 1. Fait que, c'est pas comme si j'étais un gars qui exagérait dans ça avec les arbitres. Moi, je pas comme principe que, à tous les soirs, moi, je fais des erreurs. Fait que eux autres, d'après moi, sont humains aussi, vont faire des erreurs. Si ça s'accumule, là, c'est là que, OK, je vais dire de quoi, etc. Mais tu sais, je pars pas au premier 5 minutes, aussitôt qu'il y a une erreur, là, que c'est épouvantable, il y a une erreur. Mais oui, ça va arriver, là. Que ce soit un call ou un non-call, il va y avoir des erreurs. Là. Ça sera pas une game parfaite, c'est sûr. Fait que pas de même, puis ça donne un mulligan.
Le fait que ça soit un coach d'expérience, un vétéran comme coach, on a tout le temps l'impression qu'il y a une marge de manœuvre supplémentaire. Avec Tortorella, ça a l'air que c'est non dans ce cas-là, là.
Ben, j'ai pas vu à 5 ans, j'ai juste vu, si j'ai bien vu, là, la punition à Scott Laughton, là, il a donné 10 minutes. Ouais. Je pense que, si c'est ça, je comprends que Torsi, il était à défendre son droit. Puis, peu importe la conséquence après. À un moment donné, il faut que tu sois là pour tes joueurs aussi. Puis, tu sais, je sais pas toute la circonstance alentour de tout, là, mais je te dirais que la 10 minutes à Scott Laughton, c'était, la mèche était courte.
La mèche était courte. Mais des fois, c'est drôle parce qu'à l'époque, tu sais, moi je me souviens, ici au 98.5, on a eu Ron tellement longtemps, Ron Fournier, qui était un personnage sur la patinoire. Ouais. C'était une entité, c'était un show lui-même. Wes McCauley, on a l'impression que c'est encore ça aujourd'hui. Me trompes-tu quand je dis ça?
Ah, c'est sûr que Wes, il est très très bon. Puis il sait. c'est sûr qu'il y a une personnalité pis tout ça, mais il est bon. Il est bon, Wes. Fait que, tu sais, dans une grosse game, c'est le gars que tu veux. Sauf que, des fois, Wes, c'est un gars qui a une personnalité, des fois, c'est ça qui est ça.
C'est ça. Ça donne deux matchs de suspension, 50 000 piastres d'amende pour Tortorella, qui sera payé par les Flyers de Philadelphie, soit dit en passant. Bon, André, on te laisse aller pis on te laisse te préparer pour ton duel de demain face au Wild du Minnesota. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne fin de soirée.
Merci, André Tourigny, coach des Coyotes de l'Arizona. On s'arrête quelques instants.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Nous avons appris aujourd'hui qui sera les prochains nominés pour le Temple de la renommée de la Ligue d'hockey junior maritime du Québec. Je dois me forcer. Je l'ai fait. C'est avec beaucoup de fierté qu'on apprend aujourd'hui que Gilles Courteau sera intronisé à titre de bâtisseur, Patrice Bergeron, Alexandre Daigle, Maxime Talbot et Réginald Savage. Lui qui est décédé malheureusement, ce sera à titre posthume. Il fait partie du comité de sélection et c'est notre collaborateur hockey. Stéphane Leroux est avec nous. Bonjour Stéphane.
Salut, Jérémy.
Hey, c'est pas une petite brochette que vous avez mis là pour le temps de la renommée?
C'est incroyable de penser, Jérémy, puis moi, je me suis joint là, au comité de sélection, c'est ma première année. Là. Il y a des collègues qui ont décidé de se retirer, puis on m'a demandé, là, avec Neil Hodge, un gars d'un journal à Moncton qui a longtemps couvert la Ligue, de se joindre au comité, puis c'est fascinant de voir comment est-ce qu'il y a encore plein de bons joueurs qui n'étaient pas et qui ne sont toujours pas au temple de la renommée. Ça dénote un peu, tu sais, la qualité, l'histoire de la Ligue. Tu sais, quand t'arrives avec un bonhomme comme Alexandre Daigle, tu dis, coudonc, il était pas là, lui. Puis t'arrives avec un Maxime Talbot, tu dis, coudonc, il était pas là, lui. Tu sais, alors c'est un peu ça l'histoire de cette ligue-là, puis t'as raison de mentionner que c'est une cuvée importante. Je vais diviser ça en deux, mon propos. D'abord, la catégorie des bâtisseurs, On est tous arrivés là le matin, on s'est salués, on s'est assis, puis on a réglé ça en 10 secondes. Là, on a dit, faut faire un statement. Gilles Courteau ne peut pas... On savait que Gilles Courteau serait un jour au temple de la renommée de la LHMQ, c'était sûr. Là, on a dit, pas question d'attendre, puis on va régler ça. Il va y avoir juste un bâtisseur cette année, puis ça va être lui. Alors, ça, tu sais, on sait tout ce qui est arrivé à la fin de son mandat, là, que c'est, il y a eu des histoires, là, tu sais, qui auraient dû s'impliquer au niveau des, tu sais, les fameuses initiations puis tout ça, tu sais, mais je pense que le mandat de Gilles Courteau, le règne de Gilles Courteau sur la LHJMQ, ça a duré presque 50 ans, là. Ça a commencé comme statisticien des draveurs de Trois-Rivières avec Michel Bergeron, puis ça a fini avec président commissaire de la Ligue pendant 37 ans. Fait que tu peux pas passer à côté. Alors, lui, je te le dis, là, ça a été réglé 10 secondes. On a dit, OK, bâtisseur cette année, c'est Gilles Courteau. Il n'y en aura pas d'autres. On passe au prochain dossier. Puis là, ben, on s'est étendu, évidemment, sur les candidatures des joueurs qu'il y avait. Puis chacun arrive là avec ses idées. Puis on a évidemment des dossiers étoffés là, qui sont montés par Denis Demers, le statisticien de la LHJMQ. Patrice Bergeron venait de prendre sa retraite. Alors, lui, s'est allé un peu de soi. Puis là, après ça, tu regardes les autres, tu dis, tu sais, Maxime Talbot, il a gagné deux fois le trophée Guy Lafleur dans la LHJMQ. Il y a seulement que deux joueurs dans l'histoire de la Ligue qui a gagné ce trophée-là. Ça, c'est le MVP des séries. C'est le Conn Smythe de la LHJMQ. Le seul autre qui avait fait ça, c'est Marc Saumien, puis il est au temple de la renommée. Puis là, tu dis, il a gagné deux fois le trophée Guy Lafleur. Il n'y a pas d'autres qui ont fait ça. En plus, il a compté le but gagnant d'un septième match de la Coupe Stanley. En plus, il a joué pour l'équipe Canada junior. Tu peux pas vraiment passer à côté de Maxime Talbot. Alors, lui, il est rentré comme ça aussi. Puis là, ben, c'est ça. T'es arrivé avec des bonhommes. Il y avait des candidatures. Alexandre Daigle, moi, j'ai beaucoup milité pour lui parce que je me dis, premier au total à la JMQ, premier au total dans la Ligue nationale. Le gars, il a deux médailles d'or avec l'équipe Canada junior. Il en aurait probablement eu trois s'il avait pas joué dans la Ligue nationale à 18 ans. Les gens associent beaucoup, des fois, Alexandre Daigle à un flop. Moi, ça me met hors de moi quand j'entends ça. Puis Jérémy, des fois, j'étais assis dans la chaise que tu occupes présentement, puis je faisais du remplacement. Puis c'est arrivé un sujet, là, quand approche le repêchage de la Ligue nationale, puis il y a des gens qui appelaient des fois, puis disaient, plus grand flop, Alexandre Daigle. Et je te dis, ça me mettait hors de moi. Puis je me souviens d'avoir demandé à un auditeur qui avait dit ça un soir, comme ça, à boule pour point, il a joué combien de matchs, Alexandre Daigle, dans la Ligue nationale? Là, l'auditeur m'a répondu 15, 20, j'ai fait pardon. Il en a joué 616 des matchs dans la Ligue nationale, puis ça n'avait pas été des deux conflits de travail qu'il y a eu. Il en aurait probablement joué 700, 750. On capote un peu cette année sur Slavkovski, qui va peut-être faire 40, 45 points à 19 ans. Il en a fait 50 à 18 ans avec une équipe de dernière place à Ottawa. Alors, tu sais, Alexandre Daigle, c'était un gars qui faisait courir les foules dans la LHJMQ. Tu le sais, tu jouais dans ces années-là, Jérémy, si je me trompe pas. Là.
Je me suis fait shifter par lui à plusieurs reprises, je te garantis.
Comment t'as dit ça?
J'ai dit, je me suis fait shifter par lui à plusieurs reprises.
Moi, je peux te le dire, là, en 30, bientôt 34 ans là, de couverture de la LHJMQ, je pense encore là, que de la ligne bleue au filet,
ah, c'est incroyable.
Plus rapide que j'ai vu passer dans la Ligue junior majeure du Québec. Là. Il faisait courir les foules partout où il allait. Il y en a deux qui faisaient courir les foules dans mes années à moi. Je sais que Mario Lemieux faisait courir les foules puis Guy Lafleur dans le temps, là, mais depuis le début des années 90, il y a eu lui puis Sidney Crosby. T'sais, Vincent Lecavalier, là, oui, il a tiré à Laval, mais c'était pas, il n'y avait pas de folie partout pour lui. Nathan McKinnon, c'est pareil. Il n'y avait pas de folie partout pour lui. Alexis Lafrenière, oui, un petit peu. Mais Crosby puis Daigle, là, tu voyais les amphithéâtres se remplir ailleurs puis tout ça. Puis dans le cas de Reginald Savage, écoute, mon plus grand regret, moi, c'est qu'on n'ait pas pu y annoncer avant. Si on avait su qu'il était malade, on ne savait pas. Puis je le répète, je l'ai dit dans le temps des fêtes, quand son décès était annoncé, on l'a pas intronisé au temple de la renommée parce qu'il est décédé. Là. C'était déjà réglé en octobre. La réunion a eu lieu en octobre. Et Mario Cecchini, puis les autres membres du comité, puis la LHJMQ, n'étions pas au courant du fait qu'il était malade, puis que dans le fond, il lui en restait plus pour longtemps. Parce que c'est certain qu'on lui aurait dit avant. Malheureusement, il l'a pas su, mais tu sais, Reginald Savage, c'est trois saisons de 50 buts dans la LHJMQ. C'est un gars qui a évidemment été victime de racisme, puis tout ça. Puis je sais que tu l'as connu aussi parce qu'il a joué à Sorel ouais. Dans les Femmes de 3A, puis... T'sais, il détient encore à ce jour le record qui sera jamais battu, là, 82 buts en 40 matchs dans la Ligue Midget 3A. On verra plus jamais ça. C'est un gars qui a marqué son époque, même s'il n'a pas eu la carrière dans la Ligue nationale qu'il aurait pu avoir. Puis pour bien expliquer aux gens, Jérémy, puis je pense que c'est important de le dire, pour être intronisé au temple de la renommée de la LHGMQ, il faut que tu aies soit été bon, une carrière incroyable dans la LHGMQ, ou que tu aies fait rayonner la LHGMQ sur la scène du hockey. Parce qu'il y a des gens qui ont écrit aujourd'hui sur les médias sociaux, ouais, mais Patrice Bergeron, il a joué juste un an dans la LHGMQ, 70 points, c'est rien d'exceptionnel.
Après, il était joué avec les Blues de Boston l'année d'après. C'est quand même poupé.
Ben oui, c'est ça. Tu vas-tu t'empêcher d'introniser un gars parce qu'il a fait le saut à 18 ans, tu sais? Puis à ce jour, il y a deux joueurs dans l'histoire du hockey qui ont la triple couronne, qui ont joué dans la LHGMQ. Patrice Bergeron et Sidney Crosby. Bon, Crosby, on sait qu'il va être au temple de la renommée un jour, c'est sûr. Tu peux pas passer un gars qui a gagné la triple couronne, qui est la médaille d'or des Jeux olympiques, la médaille d'or du championnat mondial senior et la Coupe Stanley. Tu sais, il y a une trentaine de joueurs dans le monde qui ont réussi ce triplé-là. Puis il y en a deux qui ont joué dans la LHGMQ qui ont fait ça, dont Patrice Bergeron. Alors, c'était un no-brainer, ça aussi. Fait que ça nous donne la QV 2024 qu'on a, qui, moi, c'est ma première là, en tant que membre du comité, puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun.
Et là, en plus, vous allez avoir deux gars des Tiques de Victoriaville, Savage et Alexandre Degg, c'était avec les Tiques de Victoriaville. Là, j'ai les stats devant moi, puis il faut que je prenne le temps de le mentionner. Écoute, Reginald Savage est une machine. Quand il est arrivé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, 68 matchs, il a 68 buts, 54 passes, 122 points la première année. Ça, c'est du point en temps. Là. La deuxième année, il y a 58 buts, 55 passes, 113 points. Ça, c'est une machine de hockey. C'est pour ça qu'il dominait la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je vais y aller avec Degg maintenant. Première saison avec les Tiques de Victoriaville. Il sort du midget 3. Là. Il nous a battus, nous, les riverains du Richelieu, midget 3, avec un poignet cassé. Il arrive, là, première année, 35 buts, 75 passes, 110 points dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui, à l'époque, et ça accrochait, ça frappait, ça se battait.
C'est un des gars, Jérémy, avant que tu continues dans tes chiffres, là, c'est un des 10 gars dans l'histoire de la Ligue qui a fait 100 points à 16 ans.
C'est fou. C'est fou quand même. Et la deuxième saison, 137 points, 47 buts, 92 passes pour 137 points. Écoutez, moi, je veux dire, Stéphane, je lève mon chapeau au choix que vous avez fait. Puis quand je disais c'est une brochette importante de nouveaux membres au Temple de la Renommée de cette ligue, je vous félicite parce que c'est vraiment, c'est justifié, c'est bien fait. Je trouve que, puis Gilles Courteau, c'est un coup de chapeau qu'il mérite. Il mérite qu'il soit là au Temple de la Renommée de la Ligue de hockey junior maritime du Québec maintenant.
Ouais, on a fait une émission spéciale aujourd'hui à Hockey 360 à RDS pour faire le dévoilement, puis dans cette émission, on avait des entrevues avec chaque intronisé, puis on avait aussi le moment où Mario Cecchini les appelle, tu sais, pour leur annoncer que, tu sais, Gilles Courteau, il est humble. Je pense que dans son fort intérieur, il savait très bien qu'un jour, il serait au Temple de la Renommée, mais je pense que ça l'a touché de savoir que c'est fait dès la première année. Tu sais, dès la première année qu'il est plus là, puis, tu sais, je veux saluer là, les membres du comité, je suis pas tout seul là-dedans, là, Raymond Bolduc, un vieux de la vieille de la LHGMQ, Neil Hodge de Moncton, Guy Darvaux, qui a déjà été président de la Ligue Média 3A, qui a longtemps travaillé là, pour CCM notamment, Gilles Moffett, qui a été longtemps journaliste au Journal de Québec. On a regardé ça, puis, tu sais, Jérémy, je te le dis, il y en a qui n'ont pas passé cette année par pas grand-chose, là. Mm-hmm. Puis là, tu te dis, hey, tabarnouche, que ça fait mal de pas rentrer celui-là non plus cette année, puis hey, que ça fait mal de pas rentrer celui-là. Fait que là, on a déjà deux puis trois noms en banque pour l'an prochain, tu sais, mais il y en a d'autres, là, qui frappent à la porte, tu sais, il y a des gars, là, qui ont 500 points dans la LHGMQ, là, puis sont pas encore au temple de la renommée. Il va falloir qu'on règle ça un jour, on n'a pas le choix. Tu sais, t'as des gars qui ont gagné des Coupes Stanley, là, deux puis trois fois, là, puis qui ont gagné la Coupe Memorial en même temps. Il va falloir qu'on règle ça aussi, tu sais. Puis des bâtisseurs, puis des grands coachs, puis tout ça. Alors, il y a encore, fais-toi-en pas, là, on pourrait en entrée 8-9 par année, puis on veut pas. On veut se limiter à 4 ou 5, justement, pour que ça demeure une soirée prestigieuse, puis tout ça. Mais j'avoue que la QV 2024 est pas pire. Là. Moi, puis en plus, que ce que j'aime, puis je le prends personnel un peu, c'est des gars que j'ai connus dans mes années, là, tu sais, depuis que je suis à RDS. Là, tu sais. Parce que des fois, évidemment, on est. Tu sais, l'année passée, on avait intronisé à titre posthume Dave Ezard, qui est un ancien des Royals de Cornwall, tu sais, dans les années 80, qui avait eu une carrière incroyable, mais que je n'ai pas connu. Tu sais. Alors, de voir un Alexandre Degg ce soir qui était de passage dans nos studios, puis comment est-ce qu'il est rendu serein, ce gars-là. Je pense que le documentaire qu'il a fait avec Amazon, là, ça l'a vraiment aidé à peut-être, tu sais, comment est-ce qu'on dit ça, là, c'est laisser aller ses démons un peu, puis tout ça. Puis j'ai assisté il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, le podcast de David Bocage, Drette sur le tape, fêtait son 200e, puis il avait invité Alexandre Degg, puis ils ont fait ça en direct dans un resto à Montréal, puis je suis allé, puis il était super généreux pendant près de 2 heures de temps, là, parler de sa carrière, puis parler de tout ce qu'il a vécu, puis c'est un gars qui a beaucoup d'humour, puis tout ça, puis c'est le fun de voir ce gars-là, tu sais, puis je l'ai dit aux amateurs de hockey qui t'écoutent ce soir, là, arrêtez d'associer Alexandre Degg à Flop. Tu sais, je veux dire, c'est inconcevable de dire ça parce que t'as une carrière de 900 matchs dans les rangs professionnels en comptant l'Europe. Tu sais, des flops premiers au total, il y en a des pas mal pires qu'Alexandre Degg, là, tu sais, faites le tour. Puis je pense que les attentes en lui étaient tellement hautes, là, tu sais, mais en même temps, ben, il a fait ce qu'il a pu dans les circonstances. Puis il avait peut-être pas tous les outils à l'époque. Il l'a dit lui-même dans le podcast, justement, l'autre jour, tu sais, peut-être que s'il y avait eu un soutien qu'on offre aujourd'hui aux joueurs qu'on n'offrait pas dans ce temps-là, peut-être que ça serait passé différemment, tu sais. Mais ce gars-là avait un talent incroyable. Puis je me rappelle du Colisée Isabelle Brasseur à Saint-Jean-sur-Richelieu quand Victoriaville venait jouer là. Puis il en rentrait 4000 dans l'aréna quand il y avait 2300 places. Tu sais, ça avait aucun sens. Tu sais, je veux dire, c'était ça, Alexandre Degg, au début des années 90. Tu sais, moi, je l'ai couvert. Il jouait Midget 3A avec les Régents. Tu le sais, tu l'as affronté.
Oui.
Tu sais, je veux dire, c'était phénoménal, Alexandre Degg, à l'époque, là, t'sais.
Quand même, première saison dans la Ligue nationale de hockey en 84 matchs, 20 buts, 31 passes, 51 points. J'ai déjà vu pire que ça dans la vie.
Avec un club de dernière place, avec un club
ouais.
d'extension.
Ouais.
Avec un club où il y avait, à part lui, il y avait Alexis Yachin, c'était à peu près tout, tu sais. Je veux dire, il y avait absolument rien, puis il était là, tu sais. Puis même plus tard dans sa carrière, il a joué avec le Wild du Minnesota, avec Jacques Lemaire, puis il y a une année qui a terminé premier compteur du Wild en jouant sur un troisième trio, là, en jouant 12-13 minutes par match. Alors, tu sais, c'est ça aussi, tu sais. Puis, hein, tu sais, il y a des gens qui disaient à une certaine époque, ah, il aime pas ça, le hockey, tu sais. Puis, mais s'il n'avait pas aimé ça, il aurait-tu été joué 4-5 ans en Suisse en fin de carrière, puis d'aller jouer un autre 200-300 matchs en Europe? Je pense que ce gars-là, c'était un gars qui était un peu différent, peut-être, de son époque. C'était peut-être pas. Il l'a dit ce soir à RDS. Il dit peut-être que je suis pas arrivé au bon moment. T'sais, il est arrivé où il y avait encore beaucoup d'accrochages puis tout ça. T'sais, aujourd'hui, ce gars-là, la façon dont il patinait, il aurait eu toute une carrière. T'sais, il a eu une belle carrière, mais il n'aurait eu, je pense, une meilleure s'il était né dans les années 2005-2010 au lieu d'être né en 1975. Là.
Bon, ben Stéphane, écoute, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as donné ce soir et félicitations au comité de sélection pour ces nouvelles candidatures au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Stéphane, merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Salut, Jérémy. Bonne soirée.
Merci. Au revoir. Je vous rappelle, donc, les nominations, c'est Reginald Savage à titre posthume, Maxime Talbot, Alexandre Degg, Patrice Bergeron et Gilles Courteau. Et savez-vous quoi? Mercredi, 21h05, Gilles Courteau sera avec nous pour nous parler justement de cette nomination. Ça arrête quelques instants. C'était Grand Prix d'Arabie Saoudite. Same old, same old. C'est qu'est-ce qu'on dit en F1 quand c'est toujours la même chose? Verstappen gagne. Mais faites attention. Il y a de la bisbille maintenant chez Aston Martin. On n'est pas content de ce fameux Lance Stroll qui est le fils du papa Stroll propriétaire. Il commence à avoir un petit peu de grogne. On en parle au retour avec Alexandre Tedgani. Restez là.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Maintenant, on va parler de divertissement parce que le centre de divertissement Tag E-Karting à Saint-Thérèse, c'est quelque chose de spécial. C'est l'incontournable du divertissement intérieur. 3 pistes multiniveaux de kart électrique, du bowling, des arcades, laser tag, cinéma interactif et, écoutez bien, la création de nouvelles attractions qui vous seront dévoilées si peu. Célébrez la Saint-Patrick avec nous le dimanche 17 mars. Portez du vert et prenez-vous en photo. Vous pourrez courir la chance de gagner une carte cadeau de 100$. Comment? Ben, inondez vos posts et vos stories avec le tag e-karting et montrez-nous vos tours de piste endiablés ou des rigolades entre amis. Le tag e-karting à Saint-Thérèse, la référence pour vous, votre famille et vos collègues de bureau.
Formule 1. Pour les dernières nouvelles et les résultats sur les circuits de Formule 1 et en sport automobile, au réseau Cogeco, voici Alexandre Tagliani.
Monsieur Tagliani, comment allez-vous?
Jérémy.
Hey, Monsieur Tagliani, peux-tu dire une chose? Verstappen a gagné encore, puis je me semblais que tu m'avais dit que c'était pour être excitant cette année, Alex.
Ça s'en vient. C'était pas mal plus serré que je pensais.
Okay.
Écoute, il y a eu l'histoire de Carlos Sainz, qui s'est d'ailleurs fait remplacer par Oliver Burnham, qui a fait vraiment sensation dans les situations dans lesquelles il a été mis. Remplacer Saints en pratique 3. Il a manqué les deux premières pratiques. Il est allé en qualif. Il a presque battu Lewis Hamilton. Il était en 11e place. Il a presque traversé en Q3. Il a fini 7e. Il a marqué des bons points. Je pense que ça démontre aussi, pas juste le fait que c'est un pilote talentueux, mais le fait que la voiture va bien. C'est une bonne auto. Probablement pas encore capable de détrôner Max dans une course. Pour plusieurs petites raisons techniques, la voiture peut-être elle use un petit peu trop les pneus, il manque un peu d'appui pour être aussi rapide que Max dans certains secteurs, mais ils sont proches. Sur un tour, je pense que plus tôt qu'on le pense, on va pouvoir voir des gens qui vont challenger Max pour la pole.
OK, donc Verstappen premier, Perez deuxième, troisième Leclerc. Je veux qu'on se parle de Aston Martin et de Lance Stroll. OK, Lance Stroll qui a touché le mur, c'est quoi, au sixième ou septième tour. Là, il y a un texte fort intéressant de Philippe Crépeau sur Radio-Canada qui parle de la grogne qu'il y a présentement chez Aston Martin. Et je t'en lis une séquence, OK? Depuis sa sortie de piste de samedi, les critiques acerbes à son sujet ont repris et on lui demande de laisser sa place. Pour de bon, il bloque un volant, crie-t-on, qui pourrait aller à meilleur que lui. Donc, là, on commence à pas être content de voir Lance Stroll ne pas être capable de performer avec un bolide qui marche. Parce que Alonso a terminé quatrième. On peut comprendre et on peut imaginer que sa voiture à Lance est capable de performer également.
Ben, le problème aussi, Jérémy, ça vient du fait que tu prends un gars comme Oliver Burnham qui vient de l'Académie Ferrari. Il était là en F2, il avait fait la pole, et puis il se fait appeler pour aller en pratique samedi matin, va faire son dent le mieux possible, s'ajuste dans la voiture, il n'y a pas ses réglages à lui, là. Il va prendre les réglages que Ferrari vont lui donner avec ce que Leclerc fait, donc il n'est pas là pour s'imposer en tant que pilote, il a conduit une auto qu'on lui a donnée, puis quand ça arrive, ben là, les mêmes petit problème qui peut arriver lors d'un incident, lors d'une erreur, ça amène plein de commentaires puis plein de spéculations. Donc, la performance que Oliver Burnham a faite n'a pas aidé, je pense, la cause de Lance. L'autre problème que je vois avec Aston Martin, c'est que comme toute équipe, c'est une marque, ça me fait penser beaucoup à Ferrari, ils vont avoir besoin de se positionner en Formule 1, ils vont avoir besoin de gagner, de bien faire. La Formule 1 va vraiment aider la marque Aston Martin. Tu as besoin d'un top pilote, tu as besoin d'un nom. Ils ont été chercher des anciens pilotes, des anciens champions du monde. Vettel le premier, Alonso le deuxième. Mais si Alonso quitte, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre deux rookies. Donc, tu sais, le problème, c'est que je dis pas que Stroll est protégé par la situation, mais Aston Martin ne savent même pas s'ils peuvent mettre la main sur Alonso en ce moment. Donc, tu sais, tu fais rentrer deux pilotes nouveaux dans une équipe qui devrait être dans une situation d'avoir pris un peu son envol puis de commencer à venir taper à la porte des podiums. Ça peut chambarder même si les pilotes sont talentueux puis même si les gars, c'est des gars qui méritent d'être en Formule 1. Tu sais, c'est pas facile en ce moment la situation dans laquelle Aston sont sans savoir si Alonso veut rester.
OK, parfait. Là, j'enlève Alonso de la conversation. J'enlève Papa Stroll de la conversation, puis je parle au pilote automobile que tu es, Alex Tagliani. Est-ce que Lance Stroll a le talent pour être en F1?
Écoute, moi, je l'ai toujours dit, quand là, tu réussis à faire une performance, deux performances, tu peux pas faire une ou deux performances, puis après ça, tout d'un coup, tu n'es plus capable de piloter une F1. T'sais, je veux dire, tu es capable de la piloter une fois, tu es bien capable de la piloter 100 fois. Mais complet, c'est plus difficile parce que en F1, là, t'as énormément de pression. Je sais pas en ce moment. Moi, je pense qu'il a sa place. Il a été capable de faire des super de belles prestations. Donc, à ces moments, il est quand même talentueux. Mais qu'est-ce qui fait que moi, même moi, je me suis fait surprendre depuis le début de l'année parce que je m'étais dit, ah, il va super bien en pratique, il va bien en testing. L'année passée, il a commencé l'année avec un peu un retard parce qu'il s'était fracturé le poignet. Il a eu une blessure, il est revenu, il a démontré son courage puis son désir. Puis là, avec tout en place, ben, puis avoir mis l'emphase sur bien se préparer mentalement pendant l'hiver, moi aussi, je m'attendais à plus, tu sais. Fait que, écoute, tu vas pas crucifier un gars tout de suite, là, après le deuxième Grand Prix, après une erreur. Mais là, la problématique, c'est que, là, la pression va commencer à se faire de plus en plus forte. Puis là, s'il n'est pas capable de résister à la pression, les erreurs pourraient commencer à devenir de plus en plus nombreuses. Et c'est là que tu tombes en spirale. T'sais, on a vu Ricardo, on a vu d'autres pilotes. Donc, écoute, ça va pas être facile parce que maintenant, il va en avoir de la vraie pression. Puis s'il n'est pas capable de supporter la pression, ça va pas aller de mieux en mieux.
OK, dernière question sur Lance Stroll. Quand ça vient de ton équipe à toi, il me semble que ça, c'est de la fumée que tu veux pas quand tu es propriétaire de l'écurie. Quand ta propre équipe commence à s'en prendre au pilote, et j'imagine que le pilote s'en est déjà pris à son équipe, là, mais quand ça vient de l'interne, il me semble que ça sent pas bon, ça.
Ouais, c'est... écoute, on le voit un peu avec la saga Christian Horner, hein, tu sais, c'est ça. Quand là, ça marche plus, ça vient de partout. Et puis, tu sais, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, quand les gens commencent à être tannés ou quand les gens ont plus confiance, ils commencent à avoir de la bisbille, les coups volent bas, ça peut avoir un impact néfaste à l'intérieur d'une équipe pour la chimie. Puis, si Lance se laisse emporter aussi par son attitude, puis commence à jeter la serviette, c'est là que ça va aller de pire en pire. Alors, écoute, j'ai pas une boule de cristal, je peux pas te dire ce qui va arriver dans le futur, mais la seule et unique façon que ça va se régler, c'est le jour où Lance va taper quelques résultats, va surprendre les gens maintenant. Il ne lui reste que ça, puis battre Alonso pour qu'à un moment donné, le monde dise OK, là, on a donné une chance, on a pris notre temps, ça valait la peine d'investir autant de temps dans ce pilote-là. Là, on peut bâtir sur lui. Si Alonso quitte, ben on a un bon vétéran. Parce qu'il est vétéran maintenant, il est plus recru, là. C'est un vétéran de la Formule 1. Alors c'est juste ça qui lui reste. Alors il va falloir qu'il se mette la tête en place puis que il sorte son grand désir, puis c'est le couteau entre les dents à partir d'aujourd'hui.
Voyons ce que ça va donner au Grand Prix d'Australie. Alex Tagliani, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, Jérémy.
Voilà, c'était Alex Tagliani qui nous parlait du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Je vous rappelle, Verstappen gagne un deuxième Grand Prix de suite et grogne du côté de Aston Martin avec les propos que vous avez entendus d'un texte de Philippe Crépeau de Radio-Canada qui nous dit, à l'interne, on n'est pas content de voir que Lance Stroll n'est pas capable d'accumuler de bons résultats quand... Alonso, lui, finit quatrième. La majeure partie du temps, Lance Stroll est dixième. Pourquoi? Voilà la question. On s'arrête quelques instants pour retour. Aujourd'hui, très bonne nouvelle. On annonce un partenariat entre Cogeco Média et Tennis Canada. Elle est la directrice de l'Omnium Banque Nationale, Valérie Tétrault, est avec nous au retour. Restez là.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Cogeco Média devient le partenaire média radio officiel de l'Omnium Banque Nationale présenté par Roger et le balado sur la ligne s'ajoute à l'environnement de balado de Cogeco Média sur la plateforme C23 pour nous en parler. Elle est directrice de l'Omnium Banque Nationale. Valérie Tétrault est avec nous. Salut Valérie.
Salut Jérémy.
Hey, c'est une bonne nouvelle ça?
Une très bonne nouvelle.
OK, ça veut dire quoi partenaire média radio officiel?
Ben, en fait, ça veut dire qu'on va s'assurer de parler de plus en plus de tennis à cette antenne. Toujours important pour nous d'avoir des plateforme évidemment pour parler de sport, mais parler plus spécifiquement de notre sport à nous. Il se passe plein de belles choses depuis plusieurs années déjà évidemment avec nos joueurs canadiens qui font bien, qui participent aux grands tournois. Et je pense que dans le cadre de l'Omnium Banque Nationale aussi, il y aura de beaux projets évidemment qui nous attendent pour cet été et pour les prochaines années.
Là, vous avez un balado qui s'appelle Sur la ligne qui va s'ajouter à la plateforme C23. C'est quoi Sur la ligne?
Sur la ligne, c'est un balado qu'on a lancé. En fait, c'est un peu un projet COVID. Faut croire qu'on cherchait des choses à faire l'année où le tournoi a été annulé. Et j'avais eu différentes discussions avec, entre autres, Alexandre Régimbal et Hugues Léger, qui s'est finalement ajouté aussi à l'équipe un peu plus tard, ainsi que Nicolas Richard. je peux pas nécessairement donner tout le crédit au balado sur la ligne, mais depuis ce temps-là, ben Hugues Léger est devenu directeur général de Tennis Montréal. Et Nicolas Richard, lui, est devenu un journaliste qu'on lit dans la section sport de la presse et qui, franchement, fait un superbe boulot. Bon. Alexandre Régimbal a choisi de s'investir un peu avec le hockey junior, ça c'est correct, mais tout ça pour dire que on a là vraiment trois passionnés de tennis qui faisaient ça sans prétention, par passion justement. Je pense que j'ai fait partie de leur espèce de chat sur WhatsApp pendant à peu près 2 semaines et honnêtement, il y avait trop de notifications. Là. J'ai dit, les gars, vous êtes trop passionnés, enlevez-moi de là. Mais ça a donné quelque chose qui, ben c'est développé au fil des ans et ils produisent un podcast par semaine, toujours fort intéressant de les entendre, parce que ce qui est pas évident avec le tennis, c'est qu'évidemment il y en a beaucoup de tournois, c'est difficile parfois de suivre vraiment l'actualité et c'est ce qu'on est capable de faire en suivant en fait ce balado. Et il y a Charlotte Robillard-Millette qui s'est ajoutée à l'équipe il y a à peine quelques semaines, qui nous amène un peu on s'est vu de l'intérieur, étant donné que elle a joué un tennis de haut niveau chez les juniors, par la suite a fait quand même une belle transition aussi chez les professionnels avant de finalement prendre sa retraite. Alors lorsqu'on dit justement des passionnés de tennis qui font ça sans prétention, des fans pour les fans, c'est un peu ça le balado sur la ligne.
On s'entretient avec Valérie Tétrault, qui est directrice de l'Omnium Banque Nationale. Valérie, c'est un besoin pour Tennis Canada d'aller faire un tour sur le numérique aussi, peut-être de faire découvrir et de chercher une population qui est peut-être pas à la radio, qui est peut-être pas à la télévision. C'est un must pour vous?
Ouais, je suis une fille de communication d'abord et avant tout, et je pense qu'on a vu à quel point ça a évolué dans les dernières années. Alors, on n'a pas le choix au final de, justement, quand on veut rejoindre le plus de gens possible, regarder les différentes plateformes qui sont à notre portée. Et c'est comme ça qu'on peut aller chercher finalement des gens qui peut-être justement on rejoint pas à la télé ou à la radio, mais qu'avec un autre format, comme un format de balado ou sur le numérique, on est capable d'aller chercher. Et c'est un peu ça notre but, parce qu'au final, ce qu'on veut évidemment, oui, ultimement, c'est d'avoir plus de gens qui jouent au tennis, mais surtout aussi d'avoir plus de gens qui s'intéressent au tennis, qui suivent un peu l'action, qui deviennent de plus en plus éduqués aussi sur ce sport-là. Et je pense que honnêtement, avec le numérique, on a toutes sortes d'options et c'est un peu à chacun finalement d'explorer ces différentes options-là et de savoir tirer son épingle du jeu.
Donc le balado sur la ligne sera sur la plateforme Cogeco Média, la plateforme C23. Je veux savoir, Valérie, comment ça se passe avec le tournoi Banque Nationale? L'organisation cet été, vous en êtes où, là?
Ça se passe bien. C'est drôle à dire, mais même si on est au mois de mars, on est en grosse saison de planification déjà pour ce tournoi-là. On a toute une équipe là, qui travaille fort. Je dirais que notre début d'année, en fait, a été consacré un peu plus à la rencontre de Coupe Davis qu'on a tenue au stade de IGA le premier week-end de février. Et là, dès que ça s'est terminé, on s'est tourné justement sur l'Omnium Banque Nationale. Ce qui est un peu particulier, Jérémy, cette année, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de travailler en fait 2 années en parallèle. Évidemment, il y a la préparation pour le tournoi 2024. On accueille les hommes cette année. Mais en même temps, on prépare aussi l'expansion du tournoi qui est prévue pour 2025. Alors, ce sera une grosse année pour le tournoi en 2025. Quand je parle d'expansion, c'est-à-dire que plutôt que d'être disputé sur 7 jours, notre tableau principal va être disputé sur 12 jours. On aura un tableau, en fait, exactement de la même grosseur que celui qui est à Indian Wells qu'on regarde en ce moment. Alors vraiment, on accède finalement à une catégorie supérieure et ça, justement, ça se planifie, c'est sûr, parce que logistiquement, ça demande un peu plus d'attention. Et donc, on met les bouchées doubles cette année, mais évidemment, 2024 promet déjà d'être une grosse année. On sait que c'est une année olympique, ce qui veut dire un calendrier quand même assez chargé pour les joueurs. On a fait une petite petite demande de dérogation au circuit pour justement donner un peu plus de temps aux joueurs de revenir de Paris, se préparer pour le tournoi de Montréal. On a obtenu cette dérogation-là, ce qui veut dire que notre finale, plutôt que d'être disputée là, un dimanche, sera disputée un lundi soir. Alors, on casse un peu les normes et on essaie autre chose.
Bon, ben écoute, il faut trouver le moyen d'amener des modifications par moment pour s'adapter avec, comme tu le mentionnes, avec ce calendrier chargé. Juste une question sur l'expansion de 2025.
Oui.
Vous devez faire ça en collaboration avec les amis de Toronto en même temps, j'imagine?
C'est clair. Oui, effectivement.
Tout va être pareil, là.
Exactement. Alors, la durée sera la même à Montréal et à Toronto parce qu'évidemment, on alterne effectivement les deux circuits. L'expansion pour notre tournoi masculin a été annoncée un peu avant l'expansion pour notre tournoi féminin, tout simplement parce que la WTA, disons, tirait un peu de la patte, mais elle a dû suivre les actions prises par l'ATP. Et donc, à partir de 2025, là, ce sera exactement le même format pour les tournois masculins et féminins.
Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait deux associations, une pour les hommes, une pour les femmes? Ce serait pas mieux d'en avoir juste une qui chapeaute tout ça?
C'est intéressant parce que ça bouge beaucoup politiquement parlant sur la planète tennis en ce moment. Il y a toutes sortes de conversations, il y a toutes sortes de rumeurs aussi. Mais s'il y a une chose sur laquelle la plupart des gens commencent du moins à s'entendre, c'est le fait que justement, peut-être que on bénéficierait à ce qu'il y ait une seule organisation qui soit en charge du tennis. Lorsqu'on essaie d'expliquer, en fait, la structure du tennis à des nouveaux adeptes, franchement, c'est compliqué. Hein? Oui, il y a la WTA, il y a l'ATP. Après ça, il y a les quatre grands chelems qui sont indépendants, qui peuvent un peu choisir finalement leur structure et certaines règles aussi, ce qui nous a amené, par exemple, à avoir différentes règles par rapport à la tenue d'un bris d'égalité, même à la cinquième manche. Après ça, on a l'ITF en plus qui gère les Coupes Davis et les Billie Jean King Cup. Alors là, si je vous ai pas perdu et vous êtes encore là, déjà, ça veut dire que vous avez une certaine base de connaissances en tennis, mais c'est pour démontrer à quel point, justement, si on avait une seule association qui était capable de gérer le tennis, un seul format pour à peu près tous les tournois, je pense que ce serait plus facile d'aller rejoindre, justement, un nouveau public, ce qui est un peu l'objectif ultime.
On s'entretient avec Valérie Tétrault, qui est directrice de l'Omnium Banque Nationale. Valérie, on jase de tennis un peu. En fin de semaine, c'était Indian Wells. Et là, le dernier en liste qui, malheureusement, n'a pas été capable de passer au tour suivant, c'est Félix Auger-Aliassime qui s'est incliné face à Carlos Alcaraz. Est-ce que c'est sa bête noire, Alcaraz, pour Félix Auger-Aliassime?
C'est difficile à dire. C'est sûr que c'est une grosse commande pour à peu près n'importe qui.
Je veux juste résumer ma pensée.
Oui, vas-y.
J'ai l'impression que Félix Auger-Aliassime semblait seul au monde à un moment donné. Alcaraz s'est pointé.
Oui.
L'a battu, ça a comme descendu à ce moment-là. Et là, la confiance n'est plus la même. Est-ce que je me trompe?
Il l'a battu une fois, Félix, Carlos, et à ce moment-là, on pensait vraiment que Félix était sur une belle lancée. C'était à l'automne 2022. Il avait enchaîné les victoires et là, on se disait, ça y est, la table est mise. En 2023, Félix devient un candidat potentiel pour remporter un tournoi du Grand Chelem.
Mm-hmm.
Et finalement, l'année 2023 a été plutôt décevante pour Félix et il serait le premier à l'admettre. Et je pense que là, lorsqu'on regarde Félix en ce moment, malheureusement, lorsqu'il joue justement contre vraiment l'élite du tennis masculin, que ce soit Carlos Alcaraz, que ce soit Daniil Medvedev qu'il a affronté aux internationaux d'Australie, on voudrait sentir, c'est une chose de perdre. Mais il y a la manière de perdre qui est aussi importante et j'aurais aimé qu'il soit capable justement d'embêter un petit peu plus, de déranger un petit peu plus Carlos Alcaraz. Et là, au final, ce qu'on a senti en fait, c'est que Alcaraz était vraiment dans une ligue à part si on comparait au niveau de jeu offert par Félix. Alors oui, il y a le manque de constance en ce moment de Félix Auger-Aliassime. Je pense que tu le mentionnais, mais ça passe beaucoup quand même par la confiance. Félix et ce genre de jeune homme qui... Il n'y a pas d'arrogance en Félix. Et donc, lorsqu'il subit une défaite, il a tendance, j'ai l'impression, à se remettre en question.
Il était
comme
personnel.
Ça. Oui, il était comme ça lorsqu'il était plus jeune. Il fait une introspection. Et des fois, quand on se pose trop de questions, ça nous aide pas sur le terrain. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe avec Félix. En ce moment, il pense presque trop plutôt que d'être capable d'être sur le pilote automatique.
Et comment vous gérez ça, Tennis Canada, quand vous avez des athlètes comme ça, hommes-femmes, qui ont leur groupe, leur préparateur, leur leur coach et vous, vous devez quand même les chapeauter, mais avec un certain recul, comment on gère ça?
Ben c'est sûr que lorsqu'on est rendu justement au niveau de jeu de Félix, il a son entourage à lui qui au final, lorsqu'on regarde par exemple son entraîneur Frédéric Fontan, il l'a rencontré un peu à cause de Tennis Canada, c'est Guillaume Marx à l'époque qui lui avait présenté, ça a cliqué entre les deux et après ça ben est née une très belle collaboration qui dure encore. Mais c'est vrai que le but finalement, ben un peu comme un parent presque, c'est de l'amener jusqu'à un certain niveau pour qu'après ça, il puisse être capable de voler de ses propres ailes. Et après ça, ben pour nous, le côté un peu plus difficile, c'est justement de laisser aller et de se dire qu'il va prendre les bonnes décisions. C'est sûr qu'on travaille encore en étroite collaboration avec Félix. On collabore sur différentes choses. On est toujours content, évidemment, de pouvoir l'accueillir à la maison, chez lui. Parfois, il vient s'entraîner quelques jours au Centre national. Évidemment, dans le cadre du tournoi, c'est toujours un peu spécial, mais reste que en ce moment, au niveau où il est justement, ben c'est sa carrière. Alors c'est lui qui la gère, c'est lui qui prend les différentes décisions et rendu là, ben Tennis Canada a plus trop son mot à dire. Disons.
Valérie, en terminant, j'ai deux questions. La première, quand on va acheter des billets, ça se met en vente des billets pour le tournoi de cet été?
C'est déjà en vente. C'est en vente depuis le tournoi de l'an dernier. La vente se passe bien. Okay. L'engouement, on le ressent. Alors si les gens sont intéressés. Ben, ça se passe au mois d'août, du 5 au 12 août. Et ben, comme je le disais, là, ce seront les hommes qui vont être à Montréal cette année. Alors, on parlait de Félix. Ben, ce sera la chance justement de venir l'encourager alors qu'il reviendra à la maison. Et ça se passe pas souvent, hein, seulement une fois à chaque deux ans.
C'était question numéro un. Question numéro deux, est-ce que tu aimes ta job? Écoute, parce que je me souviens, on a parlé ensemble souvent à l'époque quand tu donnais un coup de main à Eugène qui était le directeur du tournoi et Eugène devait se déplacer dans d'autres tournois, négocier. Est-ce que t'aimes ça, faire ça?
J'adore ça.
Ah oui?
J'adore ça.
Est-ce que c'est dur? C'est-tu demandant?
Ben, c'est demandant. Mais là, j'ai l'impression de sortir la même réponse que quand je jouais au tennis et que les gens me demandaient si ça avait demandé bien des sacrifices. Oui, c'est demandant, mais en même temps, justement, je carbure un peu au défi. Je pense que ça, c'est peut-être l'athlète en moi, ben, ce qui ressort finalement de cette première carrière-là. Mais on a une belle équipe en place. Justement, je te le disais, mais il se passe plein de choses en ce moment sur la planète tennis. Alors, c'est une belle période, je pense, pour s'impliquer, essayer d'influencer et s'assurer finalement que ben, Montréal conserve sa place aussi sur l'échiquier mondial au tennis. Alors ça fait partie évidemment de mes très, très grandes priorités.
Valérie Tétrault, qui est directrice de l'Omnium Banque Nationale, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci pour ton accueil, Jérémy.
C'est un plaisir. Cogeco Média qui devient le partenaire média radio officiel de l'Omnium Banque Nationale, présenté par Rogers. Et le balado sur la ligne s'ajoute à l'environnement balado de Cogeco Média sur la plateforme C23. On s'arrête quelques instants. Au retour, on met la table à notre soirée de conversation.
C'est 23.
Le balado sur la ligne vous invite à des échanges passionnés sur le tennis avec un regard de l'intérieur et une analyse des performances des joueurs et joueuses du Canada. Sur la ligne. À découvrir dans la section balado du c'est quoi.com. Les amateurs de sport.
C'est 23.